Chapitre 12. À bout de bras. Je voudrais te quitter. Sarah Kane manque. Depuis l'Irlande, je rentre chez Layal comme chez moi. Plus de faux-semblants ou de rendez-vous secrets. D'un côté, c'est agréable. D'un autre, ça m'inquiète presque. Je n'arrive pas à savoir si je veux cette officialisation, ce presque mariage lycanthropique. Mais j'aime ses mains sur mon torse. J'aime qu'elle soit là. J'aime son silence comme ses soudaines déclarations franches. Est-ce de l'amour? Eh bien, je n'en sais rien. Parfois, je me demande ce que Sirius aurait dit d'elle. Et comme je suis le seul à faire des dialogues, ça dépend de mes propres envies. Parfois, le plus souvent, je me dis qu'il aurait été content de me voir baiser, simplement, de me voir vivre quelque chose de simple et d'humain comme l'affection. D'autres fois, je me dis que jamais il n'aurait pu supporter de rester une soirée dans la même pièce que quelqu'un d'aussi peu sophistiqué qu'elle. Et si je vais vraiment mal, je m'assomme en me rappelant qu'il m'imaginait avec la fille de sa cousine préférée.
Le fait que Layal et Nymphadora aient à peu près le même âge n'aide pas. Dire que Layal est quelque part pour moi une projection de Tonks, que je sauve la seconde en cédant à la première, n'est pas plus efficace. J'ai essayé. Le plus simple est de ne pas y réfléchir. Heureusement, j'ai peu croisé Nymphadora récemment. Ça aide. De toutes les façons, je ne suis pas tellement là. Le manque d'enthousiasme irlandais a généré une série de réunions de réflexion sur ce qu'il convenait de faire et de missions visant à s'assurer que les communautés de l'Ouest n'étaient pas contaminées. Kwan a bien failli faire les frais des sentiments pacifiques de ses ouailles. Et il est à mettre au crédit de Lowell de l'avoir défendu contre tous, en particulier contre ces excités du commando Lycaon qui ne parlent que de radicalisation du mouvement et de passage à l'action. C'est d'ailleurs pour discuter avec un des lieutenants de ce groupe, Sylvan Hare, que je suis là aujourd'hui. Quand Lowell m'a indiqué où aurait lieu la rencontre, j'ai lu dans ses yeux qu'il pensait que j'étais content. Et le fait est que j'ai ce sentiment étrange de rentrer peut-être pas chez moi, mais à un endroit où j'ai ma place. Peut-être à cause des mômes. Pourquoi faut-il toujours que je me justifie? Chez Layal, les enfants, en général, m'aiment bien. J'interfère peu avec la marche de la maisonnée, mais je raconte des histoires le soir. Ça n'a l'air de rien, mais à en croire leurs yeux, c'est Noël. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire à de jeunes lycanthropes, hein? Le petit chaperon rouge? En fait, j'ai opté pour la mythologie grecque. Ça ne manque pas de monstres, de tragédie et de rédemption. De temps en temps, j'indique que certains héros bien connus des Moldus étaient des sorciers. Certains sont sympathiques et d'autres moins. Ça fait une moyenne. Layal n'est pas la dernière à venir écouter. Et elle ne me paraît jamais aussi jeune que quand elle est accroupie auprès du feu, faisant semblant de tisonner alors que les gosses s'endorment. Quand j'arrive, il est déjà tard et les enfants sont couchés. Layal s'occupe de tâches domestiques et s'arrête à peine à mon entrée. Les lycanthropes ne sont pas collectivement très démonstratifs. N'en suis-je pas un moi-même?
Tu as dîné?
Elle demande. Et ce souci domestique me fait irrémédiablement penser au Weasley. Est-ce que la vie peut être si simple?
Je n'ai pas faim, merci, je réponds.
Layal reprend ses tris de harde avec un petit signe de tête. J'hésite à aller l'aider. Va-t-elle encore suggérer que ce n'est pas mon rôle? Finalement, c'est elle qui propose.
Ils étaient très excités en apprenant que tu venais à la réunion. Tu pourrais leur dire que tu es arrivé, pour qu'ils dorment enfin.
C'est un aveu énorme de la place que j'ai fini par occuper dans cette hutte. Et j'en suis touché. N'ai-je pas attendu désespérément une place comme celle-ci? Ce ne sont pas mes enfants, mais ce sont des mômes qui ont, sans doute aussi profondément que moi, besoin de partage et d'horizon. La responsabilité est un peu effrayante malgré tout. Parce qu'elle me donne des devoirs. Oui, je sais. Jamais Layal les gamins n'exprimerait ça dans ces termes. Mais, moi, je sais combien avoir des devoirs envers les autres m'inquiète. Il me semble qu'une telle responsabilité devrait toujours échouer à des gens plus complets que moi. Que je n'en suis pas digne. Je repense à cette année merveilleuse et effrayante que j'ai passée à enseigner à Poudlard et à mon échec, à ma fuite finale. À tort ou à raison, on a tenu des nuits là-dessus, Sirius et moi. Et cette fois-ci, je n'aurai pas l'excuse de me dire que je suis une menace pour eux. C'est le rire de Layal qui me sort de mon introspection.
Enfin, ils finiront bien par tous dormir à ce compte-là.
Je rougis presque. J'entends la devise des camps de Greyback. Seule l'action. Et je me lève pour gagner l'extension de la hutte qui sert de chambre aux gamins. C'est très pentu et un adulte n'y tient pas debout une fois la porte passée. De fait, vers 13 ans, les gamins sont incorporés à d'autres tâches du camp. Il n'est aucun besoin d'une pièce plus haute. Tous dorment déjà, ou presque. Hope entr'ouvre les yeux à mon entrée mais les referme aussitôt. Seul, un sourire léger sur ses lèvres me dit bonjour. Son petit frère est collé à son flanc, comme un louveteau. Je les passe tous en revue. Terry, le plus vieux. Son frère Sam est l'un des jeunes chasseurs remuants du camp. Déjà presque trop grand pour le lit. Ursula, celle qu'on a trouvée dans la forêt, marquée par on ne sait qui et qui n'a jamais prononcé un mot. Si frêle. Marcus, Naomi et Paul. Trois enfants de garous. Trois orphelins. Trois inséparables.
Je souris à mon tour devant leur abandon collectif. Et puis, une question m'arrête. Je passe et repasse sur les visages endormis sans trouver ce que je cherche. Je retourne dans la salle principale et je demande sans attendre. Où est Fenn ? Layal arrête un instant son pliage puis hausse les épaules avec un fatalisme qui fait frémir. La fièvre. Elle répond comme si deux mots suffisaient à énoncer tout ce qu'il peut y avoir à dire de la disparition d'une vie. Quand ? Je demande encore plus laconique. 10 jours. Elle répond sans me regarder et je mesure combien elle est touchée par cette mort, au-delà du stoïcisme réglementaire. Elle n'a pas dit qu'il était faible, trop faible pour la révolution. Et dans ce domaine, il y a des omissions qui valent plus que de longs discours. Je ne trouve pas d'autre réponse que de la prendre dans mes bras.
La réunion a lieu dans la hutte que Lowell occupe quand il est là. Nous sommes peu nombreux, une grosse dizaine, et nous sommes encore moins à être assis au centre autour du feu. Il y a là Lowell, Kuan, deux de ses lieutenants que j'ai croisés en Irlande, Sylvan Hare et moi.
Autour de nous sont assis les rares admis comme observateurs, tous des chasseurs parmi lesquels je reconnais Sam, le frère de Terry. Il n'y a qu'une seule femme, Layal. Quand j'ai demandé, Lowell n'a pas eu l'air étonné. Il a même eu un petit sourire.
Certains vont jusqu'à dire qu'elle obtient de vous ce que personne n'a jamais songé lui donner, il a déclaré.
J'ai affronté son regard moqueur en souriant moi aussi. Je peux lui dire qu'elle n'est pas la bienvenue. La décision était entre ses mains et il s'est rengorgé. Les chefs sont tous les mêmes.
Qu'elle vienne, mais qu'elle se tienne tranquille.
Et voilà. Comme s'il en doutait. J'ai acquiescé quand même et suis allé jusqu'à préciser. J'y veillerai.
C'était ce qu'il voulait entendre. Le mal domine. Et l'affaire est scellée. Sylvan Hare est à son affaire. Il est la vedette et, à l'entendre, il est presque Greyback. Il ne commence pas une phrase sans dire « nous », sans nous rappeler sempiternellement son appartenance au corps d'élite. Nous, qui l'écoutons, sommes des lycanthropes aussi, mais de second rang. Le message est tellement clair qu'il finit par agacer Lowell.
« Et donc, ce plan, il commence quand ?»
Il demande l'interrompant au beau milieu d'un assez long et ennuyeux monologue sur la discipline et le dévouement à la cause. C'est assez bienvenu, à en croire la tête des autres. Et c'est une perfidie. Je sais reconnaître une perfidie quand j'en entends une. Si Sylvan Hare ne dispose pas de l'information, il ferait mieux de se taire. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait pendant les quelques secondes suivantes.
« Nous sommes en train de planifier les attaques. » Il finit par répliquer.
« Et vous ciblez quoi ?»
interroge Kuan de sa voix rocailleuse. Cette fois, Sylvan Hare a l'air moins gêné. Il se redresse pour répondre sur le ton dans la harangue.
« Nous venons marquer les esprits. Nous devons cibler les lieux magiques. Les sorciers doivent comprendre que leur impunité est terminée. »
Il y a des murmures appréciateurs dans la salle. J'entrevois le visage radieux de Layal et ça finit de me serrer le cœur. Nous y voilà, n'est-ce pas ? Le choix va devenir incontournable. Eux ou nous. La question étant bien sûr dans quel camp se rangent les agents doubles.
Kuan a un sourire rêveur, comme s'il se réjouissait à l'avance de l'effroi et du carnage que le commando sera capable de provoquer.
Lowell me regarde, et ça me pétrifie. Suis-je capable de faire semblant de soutenir des attaques sur Préolar ou sur le chemin de traverse? Je crois que la réponse est non, et que je le sais.
Lupin?
Il me demande. Je fais de mon mieux pour soutenir son regard, conscient que l'échec, c'est plus ou moins la mort. J'en sais beaucoup trop pour qu'il me laisse repartir s'il croit que je peux les trahir, que je ne leur suis pas totalement acquis.
« Où devrions-nous attaquer ?»
il précise, et le soulagement m'envahit presque à mon insu. Ce n'était pas une provocation, c'est mon avis qui est demandé. De la même manière que je suis l'expert en lycanthropie dans l'ordre, je suis ici un expert en sorciéritude. La responsabilité me rattrape néanmoins par les tripes. Que dire qu'il ne sera pas nuisible aux miens, à tous les miens?
Des endroits comme le chemin de traverse ou Préolar sont excessivement surveillés par les aurores. Plus encore depuis que Voldemort est revenu, je réponds finalement. Et à en juger par la surprise générale de m'entendre prononcer le nom de notre terrible allié et les regards appréciateurs de Kuan et Lowell, j'ai pas mal répondu. On se tourne vers Sylvanhare, qui n'a pas l'air très heureux de mon coup de pied à l'enthousiasme collectif.
« Nous ne pensons pas commencer par le chemin de traverse. »
Il maugrait comme à regret.
« Nous allons plutôt cibler de petites communautés sorcières isolées, des familles emblématiques. »
Instinctivement, je pense aux Weasley. Isolés et emblématiques. Je doute d'ailleurs que le commando Lycan s'attaque aux Malfoy. Et ma résolution est immédiate et claire. Je dois prévenir l'ordre.
Quand ?
Redemande Lowell, en se penchant en avant vers le représentant d'Ilikaon.
Dès que possible,
il affirme.
Dès que nous aurons assez de bras.
Elle a presque crié en me voyant. Je fais peur aux aurores maintenant ? Layal serait fière de moi. Le constat est trop amer pour que je n'essaie pas de l'adoucir avec une pitrerie.
« Lupin !»
elle chuchote avec effroi. « Bonjour, Nymphadora !» je crâne.
Elle me demande. Et sa question directe fait tomber mes prétentions à la crânerie. Brusquement, je me vois dans ses yeux, presque deux fois son âge, les cheveux prématurément blanchis, des kilos en moins, des cernes en plus. Je détourne les yeux brusquement gênés. Je suis juste un peu fatigué, je mens. Je ne suis pas particulièrement fatigué, ou, ce serait plus juste, j'ai appris à ne pas en tenir compte, il y a si longtemps déjà. Mais il est vrai que la mission irlandaise ne m'a pas épargné, et que ce n'est pas dans le camp où vit Layal qu'on se remplume.
Le mensonge ne passe pas.
Juste assez fatigué pour y laisser ta peau ?
Elle interroge Acide.
Je suis venu voir Albus, je biaise. Ça aurait peut-être fait taire Layal, ça n'a eu aucun effet sur Nymphadora.
Il est sûr que l'inverse serait difficile. Il n'y a plus grand-chose à voir, elle persifle.
J'essaie de lui montrer silencieusement que ce n'est pas très gentil de traiter un agent double qui risque sa peau pour l'ordre comme cela.
Je lui offre donc mon regard le plus sévère et, là, c'est mon cœur qui se serre. Elle me parle de ma mine, mais a-t-elle vu la sienne ? Depuis quand ne prend-elle plus la peine de rosir ses cheveux pour lutter contre la grisaille ambiante? Depuis que les détraqueurs ne se contentent plus d'Azkaban? Elle me paraît étrangement plus vieille, plus sombre et plus dure que dans mes souvenirs.
« Et toi, ça va ?» je murmure. Ses yeux gris ont une lueur étrange avant qu'elle ne se détourne.
« Je bosse beaucoup, »
elle me répond. Brusquement, j'ai envie de lui demander ce qu'elle cherchait en Irlande dans ce quartier moldu, marqué par la pauvreté et par la guerre. Si ça justifiait qu'elle ait cet air épuisé et désabusé. Évidemment, je n'ose pas.
Je vais dire deux mots à Kingsley, moi, pour qu'il te laisse souffler un peu.
J'essaie de jouer le grand frère, et Nymphadora me regarde très directement dans les yeux pour me répondre.
Et moi, je dois m'adresser à qui ?
Elle n'est que défi, et comme je reste d'abord silencieux, elle précise.
À moi ? Que cette charmante jeune femme ne s'occupe pas autant de toi qu'elle ne semblait le prétendre ?
Tu veux parler de Layal ? Je demande, incapable de jouer avec elle au chat et à la souris.
Pourquoi pas ? Elle me réplique.
Maintenant, c'est elle qui crâne.
Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Je rétorque, tout à fait conscient que cette réponse est déjà un aveu. Mais peut-être parce que tant de choses dans ma vie trichent avec la vérité, je ne me vois pas mentir à Nymphadora.
Pourquoi elle ?
Elle questionne tellement directement que le souffle m'en manque. On dirait qu'elle porte cette question en elle depuis des semaines. Je ne sais pas trop quoi répondre. J'essaie une sorte de sincérité. Je n'ai pas de bonne réponse qui commence par « parce que ». Elle lève les yeux au ciel. J'ai encore dû faire le prof.
« Tu l'aimes ?»
elle demande. Je me sens blêmir. Je ne suis même pas sûr de savoir.
« Tu ne l'aimes pas ?» elle insiste.
Et cette hypothèse-là, dans sa bouche, est pire encore.
« Nymphadora, les choses sont... plutôt, elles ne sont pas aussi simples que tu sembles le croire. »
Je commence maladroitement. Elle s'esclave peu gentiment.
« Attends, laisse-moi deviner, c'est ta couverture ?»«
Je n'ai pas dit ça. »«
Ben j'aimerais bien justement qu'une fois tu dises quelque chose, Lupin. »
Elle constate. Et le jugement dans sa voix me pétrifie. On se mesure du regard, longtemps. Finalement, elle laisse échapper un cri de rage et me tourne le dos. L'idée qu'elle s'éloigne avec autant de colère contre moi, en elle, m'angoisse.
« Nymphadora, je croyais... Que nous avions parlé, que nous étions amis ?»
Je pose une main timide sur son épaule. Elle s'arrête.
« Amis, Rémus ? Amis ? Est-ce que les amis se mentent ?»
J'ouvre la bouche, sans doute pour affirmer que je ne mens pas, et puis je la referme. À quoi bon ? Il me semble presque qu'elle tremble quand elle reprend en se dégageant de mon emprise pour me regarder en face.
« Et puis, l'amitié, Rémus, moi... »
Elle pose ses deux mains à plat sur sa poitrine.
« Moi, j'ai essayé de penser à toi comme à un ami, comme Kingsley, comme d'autres que tu connais pas. N'est-ce pas d'ailleurs très révélateur que tu ne connaisses pas mes amis ? Que je ne puisse même pas leur parler de toi ?»
Elle m'interroge du regard, et je baisse les yeux. Je fuis l'attente gigantesque que j'y vois.
« Mais la vérité, Rémus, c'est que j'y arrive pas, moi, à penser à toi comme à un ami. » Mes sentiments sont bien plus violents, bien plus absolus que ça. Je crois même qu'un ami me traiterait comme tu me traites, je ne le reverrai plus. Le truc, c'est que l'amour se fiche de l'amour propre, se fiche que ce soit sans espoir. L'amour revient toutes les nuits, dès que tu baisses ta garde, au détour des phrases que tu lis dans les livres, des lieux où tu vas.
Nymphadora, je réussis à murmurer.
Je sais, Rémus, c'est exactement ce dont tu as si peur. Que je sois amoureuse de toi, suffisamment pour m'accrocher. Eh bien, je suis désolée, mais on en est là. »
Elle a dit ça tellement calmement que je ne peux que frissonner.
« Alors, je ne sais pas à quel point tu imagines ton avenir aux côtés de cette fille. »
Sa voix est un murmure.
« Layal, c'est ça ?»
C'est terrible d'entendre ce nom dans sa bouche, mais, en même temps, c'est briser un silence, un tabou. C'est une promesse, presque une rédemption. Je n'y résiste pas. Layal. Les mots se projettent hors de ma bouche. Layal est... Ses deux parents étaient garous. C'est une survivante, Tonks. Elle vit dans l'instant. Alors, l'avenir. Ma main se lève et retombe. Je ne crois pas que je puisse lui faire du mal.
Parce que tu crois que tu pourrais m'en faire encore plus qu'en ne me donnant même pas une chance ? Elle demande. Et cette fois... Les larmes sont proches.
Quand je vois tes attentes, Nymphadora, je réponds avec une sincérité qui me surprend moi-même, comme si j'étais sûr qu'elle allait comprendre. Tu sais que je ne suis qu'en sursis, que... Comment veux-tu me parler d'avenir, Tonks ? Je peux me faire tuer à la prochaine rencontre avec les Lycaons. Je peux me faire arrêter par le ministère parce que j'appartiens à une organisation secrète. Je peux me faire descendre par tes collègues parce que je traîne un peu trop souvent dans des communautés lycanthropes. Et tu me parles d'avenir ?
Elle s'adosse soudain au mur, comme si mes paroles l'avaient acculée, et je suis dévasté par son chagrin. Nymphadora, je ne trouve rien d'autre à dire. Elle ne bouge pas, elle ne dit pas un mot. Je m'avance vers elle par pur instinct et je sens sa chaleur, sa fragilité, tout près de moi. Tout mon corps me pousse à m'avancer encore et je ferme les yeux pour repousser la tentation. Elle pose ses lèvres sur les miennes et je sais que j'ai perdu cette bataille.
Nous avons entendu le pas de Kingsley, sans doute 30 secondes avant qu'il n'ouvre la porte. On s'est immédiatement séparés comme si le contact de nos corps était devenu insupportable, sans nous regarder.
Je me suis enfoncé dans l'ombre de la pièce et elle s'est retournée vers la porte. Dans la manœuvre, une pile de dossiers qu'elle portait avec elle en entrant a basculé et s'est étalée sur le sol.
Merlin, Tonks, t'en rates jamais une, non ?
Jure Kingsley quand ses yeux tombent sur les feuillets et les photographies éparpillées sur le sol.
Déjà qu'on sort des dossiers secrets de la division.
Ils viennent juste de tomber ?
Essaie de répondre Nymphadora, mais sa voix est un peu faible. Ça m'émeut visiblement plus que Kingsley.
Je te les confie pour les montrer à Albus, et, toi, tu les poses n'importe où.
Continue de pester ce dernier en s'agenouillant pour les ramasser. Lentement, Nymphadora se baisse à côté de lui. Ses yeux me disent de profiter de la diversion pour sortir. Ça me paraît impensable. Commode, mais impensable. Je me mets plutôt, moi aussi, à ramasser les documents, en commençant par ceux qui étaient à mes pieds. « Qui est-ce ? » je demande.
« Il va falloir remettre les photos dans les bons dossiers, Tonks, les vérifier un par un, et ne compte pas sur moi pour t'aider. »
Continue de réprimander Kingsley quand il s'arrête brusquement, découvrant ma présence dans son dos.
« Lupin ?»
Dire que son regard s'est soudain chargé d'une certaine dose de soupçon serait un doux euphémisme. Je me dis que je le mérite. « Bonsoir, Kingsley !» je réponds doucement, en continuant de vérifier machinalement que le nom porté sur les photos et les dossiers correspond. Je peux au moins faire ça pour Nymphadora.
Ce sont les disparitions non expliquées depuis 2 ans,
m'explique alors cette dernière, visiblement ravie de la diversion.
Scrimgeour a demandé à la division de rouvrir ses dossiers discrètement pour voir si on ne pouvait pas les relier à Voldemort.
Un tel revirement de politique est tellement ahurissant qu'il me faut quelques secondes pour demander les précisions qui s'imposent.
Scrimgeour ? Rufus Scrimgeour ?
Oui, ça a été dans ses premières décisions ministérielles, ajoute Kingsley.
Ministériel ? Je répète. Il y a quelques semaines, tu ne savais pas ? S'enquiert Nymphadora.
Non. J'avais lu des rumeurs dans la Gazette en Irlande, mais c'est sans doute une bonne chose, non ?
Là, les deux aurores échangent leur premier regard de connivence depuis l'entrée de Shacklebolt.
On va voir, commande finalement ce dernier sobrement.
Nous nous concentrons tous les trois sur nos dossiers. Les photos montrent des sorciers de tous âges, hommes, femmes, enfants. Des disparitions ont eu lieu dans l'ensemble du Royaume-Uni et il y a même des requêtes venant de ministères du continent. Beaucoup de souffrance. Nous avons presque terminé notre tri quand je tombe sur la photo. Je ne dis rien. Je ne suis plus capable de faire un geste ou de prononcer un mot. Nymphadora s'en rend compte la première.
Oh, elle, c'est moche.
Elle soupire.
Une gamine d'à peine 6 ans disparue, alors qu'elle jouait avec ses sœurs à cache-cache, un soir, l'été dernier. Personne ne s'en remet dans sa famille.
Ça m'étonnerait que les Mangemorts soient responsables, grommelle Kingsley.
Je sais, mais la mère m'avait fait tant de peine, avoue Nymphadora.
Et il est clair que Shacklebolt va reprendre son rôle de mentor et lui expliquer la différence entre la guerre et la compassion.
Non, pas les Mangemorts, j'interviens.
Il se taise. Les garous, je confirme. Il se regarde de nouveau. Je retourne la photo. Telle ma peine. Il l'appelle Ursula. Il faut dire qu'elle ne dit rien. Le choc, a priori. Eux-mêmes ne savent pas exactement qui l'a mordu. Je suis bien conscient que mes informations sont décousues.
Tu l'as vu ? Tu es sûr ?
Ils ont posé la question en même temps. Oui.
Tu sais où elle est ?
Me presse encore Kingsley. J'acquiesce silencieusement.
Il faut aller la chercher !
S'exclame Tonks. Elle s'est levée comme si elle attendait les coordonnées pour transplaner immédiatement. Kingsley, lui, ne me quitte pas des yeux.
Où est-elle, Lupin ?
Dans un camp, avec d'autres gamins.
La plupart sont nés de garous, mais d'autres ont été mordus. Je livre tout cela presque à mon corps défendant. Je vois leur visage, celui de Layal. Je sais qu'Ursula, non, Thelma, mérite que je l'aide. Mais j'ai le sentiment très net de trahir une façon de vivre au nom d'une justice qui leur est justement refusée. Des conneries, je m'engueule. Ça ne marche qu'à moitié.
Le camp est gardé,
s'enquiert Shacklebolt. Pas réellement, il est caché.
Magiquement?
Ça les rendrait trop repérables. Comment font-ils pour les moldus? S'intéresse Tonks.
Je hausse les épaules. Allons, Lupin, il ne s'agit pas de descendre là-bas et de tuer tout le monde, m'objecte Kingsley, de sa voix bourrue et raisonnable.
Je ferme les yeux. Vous ne comprenez pas, je réponds. Cette gamine, c'est une louve maintenant. Vous êtes sûr que ses parents voudront d'elle? Et même s'ils le prétendent, comment pouvez-vous être sûr? Pensez à ses sœurs, à toutes ces pleines lunes, au risque de contagion. Elle n'ira jamais à Poudlard.
Ma stupide voix se coince dans ma gorge.
Nymphadora se laisse tomber à genoux à côté de moi. « Est-ce que tes parents t'ont abandonné, Rémus ?» Elle demande pleine de sympathie.
Je dois me retenir de ne pas la frapper. Mais je suis hargneux quand je réponds.
« Non. Mais peut-être aurait-il mieux valu pour eux. Mieux aurait valu ça que s'en vouloir de ne pas avoir su me protéger. Mieux aurait valu que je disparaisse plutôt que de me savoir voué à une vie de relégation. »
Il est à mettre à son crédit qu'elle ne grimace même pas.
« Pardon, Rémus. Bien sûr que nous ne pouvons sans doute pas imaginer aussi bien que toi tout ce qui peut mal se passer. »
Elle répond quand elle paraît sûre que j'ai fini.
« Mais tu es allé à Poudlard. Tes parents ont choisi de s'occuper de toi. »
« Grand bien m'en a fait. » Je grince.
« Parce que tu préférerais vraiment être un lycan aujourd'hui ?»
Elle questionne sans lâcher prise.
Je ne réponds pas. « Non, évidemment non. »
Ce n'est pas parce que tu te refuses tout espoir que tu dois la condamner, elle. Elle insiste en me prenant la photo des mains.
Je vais aller voir les parents, et si j'ai le moindre doute sur leur capacité à assumer un enfant différent, on oubliera ce camp et ses coordonnées.
Elle continue, raisonnable et sûre d'elle.
Et tu feras comment? Tu modifieras leur mémoire?
S'enquiert Kingsley. Et il y a moins de jugement dans sa voix que ses propos le suggèrent.
Pourquoi pas?
Elle répond sans le regarder.
C'est moi qu'elle regarde. C'est ma décision. Je croise le regard rieur de Thelma sur la photo. Je pense à celui éteint et craintif d'Ursula et j'acquiesce très lentement.
Ah, vous êtes là, constate chaleureusement Albus en entrant dans la pièce. Il n'a pas l'air particulièrement étonné de nous voir tous les trois à genoux par terre. Nous nous levons pourtant immédiatement.
Les dossiers dont je vous ai parlé, Albus,
explique Kingsley.
Oh, oui, oui. Alors, de nouvelles pistes?
Demande Albus, comme si ces pistes justifiaient que nous soyons à quatre pattes par terre à son entrée.
Nymphadora me regarde.
Je ferme les yeux pour confirmer et elle annonce.
Rémus a reconnu une petite fille portée disparue depuis plus d'un an. Elle aurait été mordue et vivrait dans un des camps de Greyback.
Vraiment ? Albus me regarde maintenant. Tout son corps respire le sérieux et je comprends qu'auparavant il se moquait gentiment de nous en jouant les indifférents.
Oui, elle ne parle pas.
Je réponds ça un peu au hasard parce que je ne sais pas ce qu'Albus attend de moi.
Vous avez déjà évoqué ces enfants, commente Albus pensif. Ils sont nombreux ?
Ursule, la petite Thelma, vit avec un petit groupe d'orphelins. La majorité sont des enfants de garous. Trois ont été mordus. Elle et deux autres.
Ils vivent seuls ? S'intéresse Nymphadora.
Non. Une femme s'occupe d'eux. Je réponds sans la regarder. Je sais pourtant qu'elle a la réponse à sa question silencieuse parce que, insensiblement, elle s'assombrit. Nymphadora me semble soudain si lointaine que ça en est angoissant. Il n'y a que quelques minutes, je la tenais dans mes bras, je partageais sa chaleur et le manque est incommensurable.
Pour remplir le silence, j'ajoute.
J'ai commencé à leur apprendre à lire. Je me rends compte un peu tard que c'est sans doute la confirmation qui manquait. Albus a une infinie douceur dans le regard quand il me répond.
Une très belle chose, Rémus.
Son approbation me fait presque rougir. Je sais qu'il connaît mon désir de transmission, d'amélioration, de réforme du monde, mon âme de professeur.
Nous allons essayer de mesurer si les parents sont prêts à accepter la situation.
Termine alors Kingsley en se tournant vers Nymphadora comme pour l'inviter à compléter. Elle semble se forcer pour dire « Je vais m'en occuper personnellement. »
« Bien, »
approuve Albus, mais ses yeux sont sur moi.
« Et vous, Rémus, vous aviez des choses à nous apprendre ?»«
Oui, » je confirme de la tête. « Ça bouge. Je veux dire, on commence à parler d'attaque, non plus comme un fantasme. Des membres du commando Lycan recrutent dans les camps et ne font pas mystère que les attaques auront lieu bientôt. »
Finalement, parler de ça est moins difficile que d'affronter ma conscience qui murmure que je viens de briser toutes mes promesses à moi-même, que je viens de trahir en quelques minutes deux fois la confiance de Nymphadora, d'abord en étant trop faible face à ses avances, et, ensuite, en lui laissant croire que je protège Layal, que cette dernière est plus importante pour moi. Ma capacité de nuisance me semble incommensurable. Il me semble que je devrais fuir, loin, très loin, ne serait-ce que pour lui donner l'occasion de m'oublier.
Où ?
M'interroge Kingsley, pris par l'information.
Je me force à me concentrer pour répondre.
J'ai cherché à savoir. Je ne crois pas que ce soit totalement fixé. Ils avaient envie de quelque chose d'emblématique, mais... ils craignent de trop grosses pertes. Les familles connues mais isolées sont sans doute les cibles les plus probables.
Albus se tourne cette fois vers Kingsley.
Comment pourrions-nous essayer de faire passer l'information à la division ?
Je sais,
intervient Tonks. Et sa voix, que l'excitation rend plus jeune, me saisit aux tripes.
Qu'elle m'oublie me semble de nouveau souhaitable. Son avenir est tellement tracé. Elle est une aurore, jeune encore, mais promise à un avenir important. Elle appartient avant tout à la magie blanche et une créature comme moi n'a rien à faire avec elle.
Mais moi, comment ferais-je pour l'oublier ? Demande alors mon cœur qui cogne contre ma poitrine comme pour protester contre le cours de mes pensées.
On pourrait ajouter ça dans la déposition de Nugarou de l'autre jour, celui qui est mort pendant son transfert à Sainte-Mangouste.
Elle a rougi en disant ça, comme si elle craignait l'effet de cette bribe d'information sur moi. Un membre du commando ? Je questionne avec toute la fermeté et la distance que je peux faire mine d'avoir. Mais les membres du commando Lycan arrivent très bas dans ma miséricorde. Ce n'est pas très difficile.
Il le prétendait. Il a essayé de braquer un magasin sur le chemin de traverse en prenant le gosse des marchands en otage.
Le père s'est courageusement défendu et les voisins nous ont appelés à temps, explique Nymphadora, et, pour la première fois, nous nous regardons. Ses paroles sont terribles et pourtant je suis heureux.
C'est faisable, commande Kingsley laconique.
Il me semble de nouveau lire le soupçon dans ses yeux, à moins que je tienne particulièrement à me trouver un juge extérieur. Parce que je sens bien que je ne suis pas autant capable de me condamner que je le devrais.
Alors essayons, l'encourage Albus avant de se retourner vers moi. Rien dans son regard ou sa voix ne semble indiquer qu'il soupçonne quoi que ce soit. Mais il serait présomptueux de penser ainsi connaître les pensées de Dumbledore.
Et vous, Rémus, ne vous mettez pas inconsidérément en danger ? Il ajoute.
Je reste prudemment dans l'ombre de Lowell, je réponds. Nymphadora a un regard particulier sur moi, comme si elle essayait de jauger le danger que je cours. J'essaie de me dire que c'est présomptueux de ma part de penser ça. Ça ne marche pas.
Je me tourne résolument vers Dumbledore pour expliquer. Ce qui ne m'ouvre pas toutes les portes du commando Lycan, mais, bon, Lowell est bien informé malgré tout. Comme ses yeux m'intimident, comme s'il lisait au travers de toutes mes minces carapaces, je baisse les miens et suis saisi. « Mais, Albus ?» Votre main ?
Ma main ? Répète ce dernier en la levant devant lui. Elle est atrocement brûlée, comme si la chair était rentrée dans les os. Ça pue la magie noire.
Qu'est-ce qu'une main ?
Il demande. On doit faire tous les trois le même geste de protestation parce qu'il reprend.
Severus ne renonce pas à réussir à la soigner, et ce n'est qu'un petit sacrifice au grand espoir qui nous mobilise tous.
Est-ce la mention de Severus ? Est-ce l'idée du sacrifice, celle de l'espoir qui nous rend si totalement muets ? C'est Albus qui a reposé sa main sur la table, un peu comme si elle ne lui appartenait pas, comme si elle ne faisait pas partie de lui, qui reprend.
« Je vais aller chercher Harry.
annonce-t-il comme si les deux informations avaient le moindre rapport.
Déjà ?
S'étonne Kingsley à notre place. Je ne pense pas qu'il partage votre sentiment sur la question, rit doucement Albus. Tonks acquiesce. Il a l'air de se morfondre là-bas. Ces moldus n'ont pas l'air de trop l'embêter, mais lui, il a l'air de...
Elle a un geste impuissant et désolé.
Intimement, je compte les semaines qui se sont écoulées depuis le retour de Poudlard de Harry, depuis ces minutes trop brèves où je lui ai serré la main et essayé de lui sourire sur un quai de gare. Je ne lui ai toujours pas écrit. Et je ne suis pas sûr que mes excuses sécuritaires suffisent à mes propres yeux. Je pourrais aller le voir. Ça ne serait pas si dangereux que ça, et essayer de partager son chagrin, d'alléger le poids sur ses épaules. Je joue avec l'idée.
Est-ce que... Scrimgeour va vouloir le voir,
objecte Kingsley.
Est-ce que le terrier est le plus discret?
Mon esprit revient sur ce changement ministériel et, pour la première fois depuis longtemps, je veux croire en la politique sorcière.
Parce que le fait que notre communauté ait voulu changer me paraît toujours incroyable. Parce que franchement, sans surestimer ce que peut faire un ministre de la magie face à Voldemort, faire mieux que Fudge ne paraît pas un bien grand défi. Et puis, Scrimgeour est un ancien aurore. Il ne devrait pas avoir cette peur maladive du conflit qui paralyse la communauté magique depuis près de 6 ans maintenant.
Il en a déjà exprimé le souhait, répond sobrement Dumbledore, mais ses sourcils sont froncés. Je surprends le regard que Nymphadora et Kingsley échangent, et je sais qu'ils pensent comme moi. « Ce que dit la Gazette ?» commence finalement Nymphadora, assez timidement. Albus sourit. « La Gazette ne peut pas toujours avoir tort. » Kingsley jure tout bas avant de commenter plus haut.
« J'aurais cru que lui, plus que tout autre, mesure qu'on a besoin de plus que de bonnes paroles. »
La confiance systématique des aurores pour les leurs m'a toujours sidéré. Comme s'ils ignoraient volontairement que ce sont des hommes comme les autres. Des hommes de bien, sans doute, mais des hommes, avec leurs appétits de pouvoir, leurs compromissions, leurs doutes et leurs erreurs, comme tous les autres hommes. Il me semble même que, investis comme ils sont de la confiance des sorciers, ils en oublient de douter d'eux-mêmes. La désillusion peut être d'autant plus terrible. Prenez Sirius. Est-ce que ses pères, Aurore, ont été plus ouverts à ses explications ?
Il est possible qu'il exige des choses qui soient inenvisageables, répond énigmatiquement Dumbledore.
Mais aucun de nous trois n'est capable de le presser davantage. Moi qui manque d'informations plus que tout autre, mais peut-être que notre silence suffit.
Il faudrait qu'il change de perspective, il explique finalement. Ce n'est pas Harry qui doit soutenir le ministère, mais le ministère qui doit reconnaître que Harry est le champion, bien malgré lui, du monde magique. Un champion dont il faudrait armer le bras.